Vous écoutez On lit pour vous.
Un chien osqué pour apaiser la souffrance. Un texte de Chloé Bourquin paru le 19 octobre 2025 dans la presse. Oh, hello Sky! Lorsque Léa Renault entre avec son husky dans le centre de jour de la rue des Femmes, les sourires illuminent instantanément les visages des résidentes. Peu à peu, plusieurs s'approchent du chien pour le flatter. Sky lèche la main d'une résidente qui laisse s'échapper un petit rire. « C'est-tu une fille? »«
Oui,
c'est une fille, » répond Léa Renault. « C'est toujours la question qui arrive en premier, » nous glisse-t-elle. « Surtout dans un refuge comme celui-ci, qui accueille des femmes en situation d'itinérance et qui ont bien souvent été victimes de violences. » La jeune femme de 27 ans suit une formation en zoothérapie depuis 2 ans avec Sky, à Trois-Rivières. En parallèle, elle réalise aussi un doctorat en cancérologie. Elle espère devenir oncologue et que la zoothérapie pourra l'aider à accompagner ses patients en soins palliatifs. C'est seulement la 2e fois que Sky vient dans ce refuge, situé au cœur du centre-ville de Montréal, mais les résidentes semblent s'accoutumer aisément à sa présence. Un premier contact avait déjà été établi quelques semaines auparavant. Ça a vraiment été une belle expérience, souligne Célia Medina, coordonnatrice à l'intervention. De l'extérieur, on pourrait penser que les résidentes sont simplement contentes de revoir ce magnifique husky de 3 ans. Mais la présence de Sky permet aussi de les apaiser, de les aider à s'ouvrir et à rétablir des liens qui sont parfois brisés depuis longtemps. Un effet apaisant. Mélanie, prénom fictif, vient d'arriver au refuge le matin même. Elle attend, dans une petite salle, de voir si on a une place pour elle. Visiblement très nerveuse, elle se tord les mains, se lève et se rassoit sur sa chaise. À ses pieds sont posés quelques sacs de plastique contenant ses affaires. Le chien entre dans la pièce et va spontanément se coucher à ses pieds. Léa Renault nous expliquera plus tard qu'elle est capable de sentir l'anxiété. Elle propose à Mélanie une activité. Cacher dans un tapis de fouille des friandises, puis laisser Sky les chercher. Mélanie acquiesce et se prête au jeu. Elle cache des récompenses sous l'œil attentif du chien, tout en racontant son histoire. Elle vient de perdre son logement dont le loyer avait explosé. Toutes ses affaires sont maintenant dans un entrepôt. Son employeur n'est pas au courant de sa situation. Elle ne savait plus à quelle porte frapper et a fini par arriver ici. C'est spécial comment la vie peut soudainement changer de direction, souffle-t-elle en regardant Sky fouiller méticuleusement dans le tapis. Quelques minutes plus tard, elle finit par pousser un soupir et esquisse un petit sourire. Ça m'aide à ne pas trop penser à mes problèmes, dit-elle. J'étais vraiment sensible ce matin. J'étais sur le point de pleurer. Je me sens vraiment plus calme. Reprendre le contrôle. Léa Renault propose à 2 résidentes de faire un autre jeu avec Sky. Marcher avec elle à travers une pièce et lui donner des ordres quand elle rencontre une cône colorée. Es-tu prête, Sky? Allez! « On y va !» lance Marie-Claude Nardini, ravie, en enfilant une veste de zoothérapie dont les poches sont remplies de friandises. Le chien, très enthousiaste, répond aux ordres sans se faire prier, récompensé chaque fois d'une caresse et d'un morceau de canard séché. S'ensuit une séance de lancer de balles à l'extérieur, ce qui permet au chien de se défouler et aux résidentes de prendre l'air. Ça m'enlève mon anxiété automatiquement. Je me sens plus en contrôle sur moi-même, nous confie Marie-Claude Nardini, qui est au refuge depuis plusieurs mois. Le chien est comme un levier d'action, explique Léa Renault. ça permet une ouverture sur le vécu. Sky permet, par exemple, de faire le miroir des émotions des résidentes, les aidant à les verbaliser. Au cours de la matinée, plusieurs se sont adressés à la chienne, lui demandant si elle était tannée, fatiguée, ou si elle avait mal quelque part. Ça permet de voir où elles en sont elles-mêmes dans leur parcours, souligne sa maîtresse. La première fois que Sky est venue au refuge, certaines victimes de violences étaient d'abord réticentes à l'idée de s'approcher d'elle. Puis, elles ont fini par venir la flatter. Pour certaines, c'était la première fois qu'elles retouchaient quelqu'un depuis très longtemps, indique Léa Renault. Un chien probablement maltraité. Quand elle l'a adopté, il y a un peu plus de 2 ans, Sky était dans un refuge de la SPCA depuis 6 mois. La chienne devenait folle, s'automutilait et était sur le bord de se faire euthanasier. Personne ne voulait d'elle. Il disait que ce chien-là, on ne pourra rien en faire, qu'elle était foutue, raconte Léa Renault. Mais bon, je pense qu'elle va plutôt bien, lance-t-elle en flattant la chienne, sagement couchée à ses pieds. On lui a dit qu'il était probable que Sky ait vécu des violences quand elle n'était encore qu'un chiot. Je trouve ça beau de la faire travailler avec des femmes qui ont aussi vécu des choses. J'ai l'impression qu'elle le sent, dit Madame Renault. À la fin de la matinée, Léa Renault a commencé à rassembler ses affaires pour repartir à Trois-Rivières. Lucie Descostes est arrivée à ce moment-là pour dire au revoir à Sky. Elle s'est installée dans un fauteuil, puis a longuement flatté le chien. « Tu sais que tout le monde t'aime, hein, Sky ?» lui a-t-elle lancé. « Tu m'emmènes avec toi à Trois-Rivières ?» Sky lui a doucement léché le nez en guise de réponse. C'était « Un chien husky pour apaiser la souffrance », un texte de Chloé Bourquin, paru le 19 octobre 2025 dans La Presse.
Des astéroïdes au menu des astronautes. Un texte paru le 6 novembre 2024 dans le magazine Québec Science. L'exploration spatiale évolue sans cesse et les vols habités iront de plus en plus loin dans l'espace. Mais comment nourrir des astronautes voyageant de longs mois loin de la Terre? Une solution inattendue pour ne pas transporter toute la nourriture à bord, se nourrir d'astéroïdes. Les missions spatiales habitées iront sûrement de plus en plus loin grâce aux innovations technologiques. On n'a jamais été aussi proche de pouvoir envoyer des humains sur Mars. Mais une question reste en suspens. Comment nourrir les astronautes pendant de longues périodes, loin, très loin de la Terre? L'exploration du système solaire pose en effet un défi majeur. Nourrir les astronautes durant ces longs voyages. Pour le moment, toute la nourriture consommée dans l'espace doit être envoyée depuis la Terre, ce qui est coûteux et complexe pour des missions de longue durée. De plus, le ravitaillement depuis la Terre devient difficilement envisageable pour de très longues distances. Imaginez, un aller simple vers Mars prendra environ 9 mois. Comment emporter et stocker assez de nourriture pour le trajet aller-retour? Une solution imaginée par des scientifiques, transformer les astéroïdes en nourriture comestible. Plus précisément, une équipe de chercheurs de l'Université de London en Ontario est parvenue à produire de la biomasse comestible en utilisant les composés organiques provenant d'astéroïdes. Bien sûr, il n'est pas question de croquer directement dans un morceau de roche spatiale. Le processus pour les rendre comestibles est complexe et se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut extraire les composés organiques des astéroïdes par pyrolyse en chauffant à haute température sans oxygène. Les composés extraits sont ensuite transformés en huile qui alimente des bactéries. Le résultat? Une substance ressemblant à un yogourt au caramel et potentiellement nutritive pour les astronautes. Mais avant que cela devienne réel, la sécurité et la qualité nutritionnelle de cette nourriture astéroïdale devront être rigoureusement testées. D'autres obstacles restent à surmonter. Il faut développer la technologie pour extraire et transformer les matériaux des astéroïdes dans l'espace. Bien que l'idée de manger des astéroïdes puisse sembler étrange aujourd'hui, elle pourrait bien devenir une réalité dans le futur de l'exploration spatiale. Cette approche pourrait révolutionner les missions habitées de longue durée en offrant une source de nourriture quasi illimitée et indépendante de la Terre. C'était « Des astéroïdes au menu des astronautes », un texte paru le 6 novembre 2024 dans le magazine Québec Science.
Pourquoi les pêches ont perdu leur parfum? Un texte de Pauline Gravel paru le 10 mars 2026 dans Le Devoir. La qualité des pêches qui nous sont offertes dans les supermarchés n'est souvent plus celle d'antan. Ces pêches peuvent être juteuses lorsqu'elles sont bien mûres, mais l'arôme caractéristique qui rend ce fruit si succulent semble avoir disparu. La fertilisation à outrance des vergers serait à l'origine de cette disparition. Une étude publiée dans Horticulture Research, qui a permis d'identifier les mécanismes biochimiques par lesquels un excès de fertilisant azoté viendrait bloquer la synthèse du composé volatile responsable de l'arôme distinctif de la pêche, vient confirmer cette hypothèse. La pêche possède un arôme qui participe grandement à sa flaveur. L'ensemble des sensations olfactives, gustatives et tactiles perçues durant sa dégustation. L'arôme herbacé des pêches qui ne sont pas encore mûres est attribuable à la production d'alcool et d'aldéhyde par le fruit. À mesure que celui-ci mûrit, ce sont plutôt des esters et des lactones volatiles qui prennent le dessus et qui génèrent des notes fruitées. Les lactones, y compris la gamma-décalactone, sont des contributeurs clés à la flaveur de la pêche et donc à l'arôme caractéristique que celle-ci exhale quand elle est mûre. Mais des engrais azotés sont souvent utilisés en surabondance dans les vergers afin d'en maximiser la production. Or, cette fertilisation à outrance a conduit au déclin de la qualité de la flaveur de la pêche, dont la douceur et l'intensité de son parfum. Des chercheurs de la Shandong Agricultural University dans la ville chinoise de Tai'an se sont appliqués à élucider le lien entre différentes concentrations d'azote appliquées sur les pêchers et la concentration des composés volatiles, dont la molécule aromatique gamma-décalactone, que leurs fruits synthétisent. Les chercheurs ont arrosé de jeunes pêchers en floraison avec trois concentrations différentes d'urée, qui contient 46 % d'azote, et ont ensuite récolté les fruits à trois moments de leur développement. Ils ont analysé le contenu en azote de ces fruits, mais aussi leur contenu en composés volatiles aromatiques. À la suite de plusieurs années d'observation, ils ont pu confirmer que l'application de doses élevées d'urée sur les pêchers accroissait la concentration d'azote présente dans les pêches et diminuait simultanément le contenu en saccharose et la variété des composés aromatiques volatiles, esters et lactones, dans les fruits mûrs. Les niveaux de gamma-décalactone étaient même carrément sous le seuil de détection dans les fruits ayant assimilé de hautes doses d'azote. Des gènes réprimés. Les scientifiques ont également observé que les traitements les plus concentrés en azote réprimaient l'expression des gènes impliqués dans la biosynthèse de la gamma-décalactone et, de ce fait, réduisait radicalement la quantité de ce composé produite et accumulée par les fruits. Plus précisément, la présence de niveaux élevés d'azote dans les fruits diminuait l'expression de deux facteurs de transcription, PPNAC6 et PPNAC36, des protéines qui se lient aux promoteurs des gènes impliqués dans la biosynthèse de la gamma-décalactone. Les promoteurs sont de petites séquences d'ADN situées en amont d'un gène et qui lancent la transcription du gène en ARN, lequel est ensuite traduit en protéines. En d'autres termes, les deux facteurs de transcription, PPNAC6 et PPNAC36, activent normalement les gènes responsables de la synthèse de la gamma-décalactone, mais leur production est inhibée en présence d'un excès d'azote. Cette étude a donc permis de découvrir le mécanisme moléculaire par lequel une fertilisation azotée excessive affaiblit l'arôme des pêches. L'azote est vital pour la croissance, le développement et le rendement des cultures, telles que celles des pêchers. Une fertilisation appropriée en azote peut en effet accroître le rendement tout en améliorant la qualité des fruits et leur flaveur. Toutefois, en pratique, les agriculteurs ont souvent tendance à appliquer des quantités excessives de fertilisants azotés dans l'espoir de maximiser les récoltes et le retour sur leur investissement. Or, non seulement cette approche élève les coûts de production et accroît la pollution environnementale, mais elle affecte négativement la qualité des fruits. La survie de tous les organismes est tributaire d'un équilibre adéquat entre l'approvisionnement en énergie et nutriments et leur utilisation. Quand cet équilibre est rompu, cela affecte les fonctions physiologiques normales, résument les auteurs de l'article relatant les résultats de cette étude. La découverte effectuée par cette équipe servira, on l'espère, à améliorer l'aménagement et la gestion des vergers. En clarifiant comment un excès d'azote supprime la biosynthèse des arômes, l'étude révèle d'ailleurs une base scientifique pour optimiser la fertilisation et atteindre un équilibre entre rendement et qualité. Elle permet aussi d'identifier des cibles à viser, notamment par des approches biotechnologiques, pour mieux maintenir l'arôme des fruits. C'était « Pourquoi les pêches ont perdu leur parfum ?» un texte de Pauline Gravel paru le 10 mars 2026 dans Le Devoir.
Récemment, Mario Girard a interrogé ses lecteurs relativement à leur premier contact avec la culture en contexte scolaire. Cela m'a plutôt ramené à mes débuts en arts et lettres, profil théâtre au cégep, lorsque je me suis retrouvée devant la question suivante : qu'est-ce que la culture ? Je me souviens de m'être alors interrogée à savoir pourquoi l'on regroupait les arts sous ce substantif qui tient plutôt du champ lexical de l'agriculture. Je n'avais pas encore acquis la notion du figuré, la quintessence de l'analogie. Consommer les arts vivants, n'est-ce pas cultiver son jardin intérieur, semer dans son esprit des référents culturels et, au moment des récoltes, interpréter le monde avec une meilleure acuité? Au Québec, alors que nous possédons une corne d'abondance, tant notre milieu artistique foisonne, je m'explique mal pourquoi l'on exige presque toujours de ce dernier qu'il sème sur le bitume. En réalité, le sens du mot « culture », j'estime l'avoir pleinement compris lorsque je suis devenue enseignante et que j'ai revêtu mon rôle de médiatrice d'éléments de culture, c'est-à-dire celui de répandre, avec la patience du jardinier, de petites bribes d'humanité chez des êtres dont la pensée s'apparente à un bourgeon sur le point d'éclore, chez des êtres à l'émerveillement non encore flétri. Victoire amère. Au regard de ma posture d'enseignante de français et d'art dramatique, l'accès universel à la culture pour les élèves du Québec m'importe considérablement. Aussi ai-je attendu avec inquiétude et espoir les annonces liées au budget 2026-2027 le mercredi 18 mars 2026. Bien que je partage le soulagement des milieux scolaires et artistiques en ce qui a trait au maintien du financement du programme « La culture à l'école », je m'interroge quant au soulèvement populaire qu'il aura fallu simplement pour conserver cette mesure essentielle. Front commun, chronique dans les médias, pétition présentée à l'Assemblée nationale. En ce qui me concerne, il s'agit d'une victoire teintée d'amertume. Pourquoi menace-t-on si souvent la culture d'être laissée en jachère? À Sherbrooke, où je réside, nous disposons depuis peu d'une salle de spectacle destinée au public jeunesse, le Grand Espace, inauguré il y a moins d'un an. Ce lieu de diffusion s'avère le fruit d'un parcours du combattant, un projet presque chimérique porté à bout de bras par la communauté artistique de la région pendant plus de 3 décennies. Considérant que la clientèle scolaire représente une large part de la vente de billets, si les subventions accordées aux sorties culturelles en venaient à diminuer, cette salle, tant rêvée et tant attendue, se viderait de son auditoire, ce qui condamnerait les artistes à se produire devant des spectateurs fantômes. J'aimerais ne plus jamais craindre ce type de scénario. Lors de ma lecture de la version provisoire du programme remanié d'enseignement du français, j'ai salué le fait qu'une variété d'expériences culturelles y soit prescrite annuellement, dont la fréquentation d'un lieu mettant en valeur la langue et la culture. Or, ma première réflexion a été la suivante. Comment les milieux scolaires, déjà aux prises avec des restrictions budgétaires austères, pourront-ils respecter ces nouvelles balises sans recevoir de fonds supplémentaires à cet effet ? Les 119 millions de dollars annoncés pour sauver le programme « La culture à l'école » suffiront-ils ? Si les retombées des investissements en culture ne se perçoivent pas lors des moissons budgétaires, celles-ci dépassent souvent largement les champs financiers. Initier les jeunes aux arts vivants, c'est leur permettre de vivre des expériences authentiques de la catharsis qui ne pourraient pas être ressenties aussi intensément devant un écran. Ces expériences créent des moments bénis qui s'inscrivent longuement dans la mémoire émotionnelle d'un individu. Au printemps 2024, j'ai assisté avec des élèves à une représentation d'André et Dorine, une pièce de théâtre masquée et sans texte, de laquelle nous sommes ressortis les yeux mouillés et la gorge nouée de sanglots. Encore aujourd'hui, je ne peux mentionner ce spectacle en classe sans provoquer un bref silence accompagné d'un frisson collectif. Bien qu'intangible, les impacts positifs des sorties culturelles sont réels et persistent dans le temps. N'oublions jamais que sans accès universel à des produits culturels de qualité par l'intermédiaire du milieu scolaire, notre jeunesse se gavera principalement de fraises de la Californie alléchantes à l'extérieur, insipide à l'intérieur, devant Netflix ou d'autres plateformes génétiquement modifiées en provenance des États-Unis. Est-ce vraiment ce que nous voulons? Cet été, je ferai un jardin. J'en prendrai bien soin, chantait Clémence Desrochers. Même restreinte à une petite parcelle de terre en milieu aride, je continuerai à semer à tout vent des référents culturels qui germeront et croîtront, je l'espère, dans les esprits de mes élèves, et ce, même s'il me faut semer sur le bitume. J'aimerais seulement qu'on n'omette pas de me distribuer un peu d'eau et du soleil. C'était « Semer sur le bitume », un texte de Sandra Fauché-Marquis, paru le 1er avril 2026 dans La Presse.
La superficie du parc national du mont Orford a doublé. Un texte de Zone Environnement paru le 7 avril 2026 sur Ici Radio-Canada. Après plusieurs années d'attente et de mobilisation, l'agrandissement du parc national du mont Orford est maintenant officiel. Un nouveau territoire de près de 50 km² y a été annexé. Plusieurs secteurs ont été ajoutés aux limites actuelles du parc national. Pour vous situer, c'est vraiment à l'ouest du Grand Lac Brompton. Ça dépasse la route 222 en allant vers la municipalité de Melbourne. Il y a aussi une bonne superficie au sud et au sud-ouest du secteur du lac Montjoie, a expliqué au micro de Parc ici l'info le directeur du Parc national du Mont Orford, Mario Landry. En octobre, l'ancien ministre de l'Environnement Bernard Drinville a confirmé l'agrandissement et un investissement de 20 millions de dollars sur 3 ans pour bonifier l'offre d'activités. Des sentiers pédestres, des sentiers multifonctionnels, des parois d'escalade et des stationnements seront notamment aménagés. Il a fallu faire des choix très difficiles. Pour cette première phase, il n'y aura pas d'hébergement. Il n'y a pas d'infrastructures de type bâtiment qui vont être construites. C'est très excitant. L'agrandissement du parc national du Mont Orford est maintenant officialisé. La superficie est passée de 59,5 km² à près de 108 km². Le projet prévoit l'ajout de 34 km de nouveaux sentiers pédestres et de 12 km de pistes cyclables supplémentaires. Accès en autonomie. Les visiteurs devront acheter leur droit d'accès en ligne ou posséder une carte annuelle du Parc national du Mont Orford ou de la CEPAC pour avoir accès au territoire protégé. Aucun poste de contrôle ne sera installé dans l'agrandissement, explique Mario Landry. Les visiteurs seront en autonomie. Protéger un écosystème. L'agrandissement du parc national permet de protéger un écosystème représentatif de la région, mais aussi de donner un accès à la nature. Mario Landry rappelle que la chasse et les promenades en véhicule tout-terrain seront désormais interdites sur le territoire de l'agrandissement, auparavant des terres publiques. Ce sont des activités défendues dans les parcs nationaux. Ce sont des territoires protégés. La priorité pour la saison estivale à venir sera l'aménagement des sentiers pédestres. Parallèlement, il y a la préparation des appels d'offres pour qu'on puisse aménager les pistes cyclables, les sentiers multifonctionnels. On parle plus de l'an prochain. Il y a quand même de grosses infrastructures prévues, entre autres un tunnel pour traverser sous la route 220. On veut relier le parc actuel avec l'agrandissement. De nouveaux sentiers pourraient être accessibles dès la fin de l'été, notamment dans le secteur au nord et au nord-ouest du lac Montjoie. C'était « La superficie du parc national du Mont Orford a doublé », un texte de Zone Environnement paru le 7 avril 2026 sur Ici Radio-Canada.